Alors, l'enquête de CBC qui montre qu'il y a eu 340 entraîneurs accusés de délits sexuels au Canada en 20 ans, et au total, 222 ont été condamnés pour des gestes envers des mineurs qui étaient sous leur responsabilité.
Et 603 victimes.
Oui, au moins, hein? Ça, c'est ce qu'on sait.
Ça, c'est ce qu'on sait. Puis là, ce que je lisais aujourd'hui, c'est que pour certaines personnes qui connaissent bien ce milieu-là, disent « ce n'est que la pointe de l'iceberg ». Je trouve que les chiffres sont effarants. Et tu sais, on se bat pour avoir le registre des armes à feu. Moi, je trouve qu'on devrait avoir le registre des entraîneurs en rut. Là, tu sais, il y a quelque chose qui a pas de bon sens. Mais c'est très inquiétant cette question-là parce que de partout on entend, et à juste titre, que les jeunes devraient faire du sport, devraient faire toutes sortes d'activités physiques, puis tout ça. Puis en même temps, tu reçois cette nouvelle-là, c'est comme une douche glacée. Moi, j'ai plus de jeunes enfants, donc j'ai pas cette inquiétude-là. Mais tous les parents doivent se sentir là. S'interroger en se disant « Oups, est-ce que moi j'envoie mes enfants dans un lieu qui est potentiellement susceptible, où il est potentiellement susceptible d'avoir des agressions sexuelles? » Je trouve que c'est assez grave. Et il me semble que quand je lis ça, mais comme néophyte de ce milieu-là, c'est que ça se passe surtout dans le sport amateur, donc dans les milliers de clubs de toutes sortes et dans tous les sports. C'est sûr, surtout les plus fréquentés, comme le hockey, le soccer, c'est là qu'on va retrouver le plus, mais parce qu'il y a plus de gens qui en font, mais ça se retrouve partout et il semble que l'existence d'un registre qui dirait voici quelles sont les personnes qui sont inscrites dans ce registre-là, puis voici quelles sont celles qui ont été et accusées et condamnées, il me semble que là, c'est relativement simple à faire. J'ai de la misère à comprendre qu'on ne le fasse pas, sauf si je comprends que dans bien de ces clubs-là, puis ces organisations-là, il y a peu de moyens, il y a peu de personnes, puis il y a beaucoup de bénévoles.
Mais dans ce que tu abordes, Pierre, ouais. Tu abordes la question des récidivistes.
Ben oui.
Mais ce qu'on voit dans le reportage de CBC, c'est sûr qu'il y a un problème de récidive. Là. Il peut toujours avoir des gens qui ont été condamnés dans une province, s'en vont dans une autre, ou dans une ville, s'en vont dans une autre. Ça, il y a ça. Mais ce que ça montre, c'est que on n'a pas vraiment appris du plus gros scandale de l'histoire canadienne en termes d'abus. Et c'est celui de Graham James, qui est un coach de hockey dans l'Ouest canadien. Ça, c'est survenu fin des années 90, 97-98. Après, là, on sait qu'il y a un joueur professionnel qui s'était avancé pour dénoncer. Sherlyn Kennedy, il jouait. Théorène Fleury, après ça, la star des Flames, avait fait une sortie dans un livre pour expliquer. Vous voyez pourquoi je suis alcoolique puis j'ai toujours une vie disjonctée? Ben, c'est parce que Graham James m'avait abusé de moi. Mais ce que tu vois, c'est que 20 ans plus tard, pas vrai qu'il y a eu une grande prise en main du milieu du sport canadien. Il y a eu Bertrand Charest, oui. L'entraîneur de ski québécois, qui a pu sévir au niveau canadien de la même façon. Donc, comment t'empêches ça? Et c'est là que tu te dis, OK, le tamis, comment tu l'installes dans une relation? La relation coach-athlète, que ce soit de haut niveau ou que ce soit dans des ligues beaucoup plus modestes, ça peut souvent être une relation extrêmement tissée, serrée. Et dans cette relation-là, s'il y a une des parties, l'adulte, qui a des motifs pas clean, ça peut devenir facile d'embobiner un enfant, un adolescent. Et moi, ce que j'aimerais savoir, parfait, on a le constat, comment t'empêches ça? Moi, c'est ça qui me donne le vertige.
Ça a l'air qu'il y a une formulaire qui s'appelle une absence d'empêchement. Ça, moi, j'avais jamais entendu parler, qui serait comme une espèce de formulaire que les gens... absence d'empêchement de coacher ou d'être entraîneur. Et c'est un formulaire qui, semble-t-il, les gens qui entraînent devraient remplir. Il y a déjà, donc, un premier tamis qui serait possible, oui. Mais il semble qu'il soit pas vraiment efficace.
Ben, c'est la vérification des antécédents. Tu veux être entraîneur, ben on va voir. C'est un dossier judiciaire en matière sexuelle ou en tout cas.
Ben, c'est ça.
Puis là, après ça. Mais, tu sais, dans les faits, là, on parlerait de récidivisme dans ces cas-là. Tu comprends? Ou ben, quelqu'un qui s'est fait attraper, là. Si t'as un casier judiciaire, c'est qu'on t'a arrêté, qu'on t'a condamné.
Pour les autres.
Ouais, mais en absence autres... d'empêchement, si tu avais un formulaire, est-ce que ça serait pas comme un sauf-conduit disant
oui.
Moi, j'ai rien comme dans. Comme
pour
dossier.
Le moment.
Pour le moment. Oui, c'est sûr que c'est pour jamais. Ouais, je vais bien.
On lit ça, et évidemment, on a le vertige, mais en même temps, il y a des vérifications. Et ce que montre l'enquête de CBC, c'est que le niveau de vérification, le niveau de surveillance aussi dans l'action, il diffère selon les sports, selon les provinces, selon les villes, selon le niveau de sport, les moyens financiers et matériels des associations, ça change d'une province à l'autre, d'un niveau à l'autre. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a peut-être un an et demi. Lui, il était entraîneur en Montérégie. Et là, il dit, écoute, il dit, je suis un peu outré, il faut que j'aille me rapporter au poste de police, il faut que je fasse des démarches sécuritaires parce que j'ai le même nom, la même date de naissance qu'un gars qui a été condamné pour des agressions sexuelles sur des enfants. Puis il dit, évidemment, c'est pas moi. Lui, il était outré. Il me disait, pourquoi il appelle pas le pédophile pour se rapporter au poste de police? Mais tu vois, il y a un certain niveau de vérification qui peut être rassurant. Et moi, je reviens à ce qu'une des protagonistes du reportage de CBC, Lorraine Lafrenière, de l'Association des coachs canadiens, disait. Elle expliquait que c'est une relation qui est aussi, qui se déroule pas dans l'intimité, mais dans une certaine intimité. Le prédateur, la personne qui est bousillée dans la tête, qui est attirée par des jeunes, lui, là, il est toujours en train de spotter. Sur qui je peux jeter mon dévolu? Il va spotter le jeune, la jeune, qui est laissée pour compte, dont les parents sont moins présents, il va trouver la faille et il va rentrer dans cette faille-là. Ça, comment, je reviens à ça, comment tu dépistes ça dans cette relation-là qui est vraiment en mouvement hein, dans une équipe de sport? Je le sais pas.
Il y avait des mesures. En tout cas, je voyais que dans certains cas, mais c'est plus pour des formations professionnelles à un autre niveau, on disait que les gens qui sont entraînés, qu'il devrait toujours y avoir deux entraîneurs avec les gens. Mais c'est clair que ça c'est certainement pas possible dans bien, bien des cas du sport amateur. Tu peux pas avoir deux personnes. Des fois, j'imagine, tu as de la misère à trouver une personne.
Et tu vois, j'ai une auditrice qui nous écrit en disant qu'elle a joué au hockey féminin. Et à chaque fois que les entraîneurs venaient dans le vestiaire, il y avait toujours une espèce de nounou qui était là. Puis que si la nounou n'était pas là, il ne rentrait pas.
Moi, je pense que dans les sports d'équipe, en tout cas, l'idée qu'il y ait toujours au moins une personne en mesure de surveiller ce qui se passe dans les lieux d'intimité, c'est quelque chose qui devrait être adopté.
Puis mais ça n'oublions pas une affaire, la complicité dans le succès.
De certaines associations.
Ouais. Puis on l'a vu aux États-Unis en gymnastique. Où tu fermes les yeux parce qu'il est tellement bon comme coach que tu ne veux pas le perdre. Puis Bertrand Charest, ça a été un petit peu ça, pas mal aussi. Ouais. Puis je regardais, là, comment il s'appelle au football, le collégial,
coach,
l'universitaire.
À Notre-Dame, je pense.
Ouais. En tout cas, qui lui, pendant des années, a abusé dans le vestiaire, puis dans les douches, puis tout ça. Mais.
Paterno.
Mais ils ont rien fait.
Il y avait une formule. Il y a bien des gens qui avaient des soupçons.
Tout le monde pensait que, mais il y avait énormément de succès.
Il y avait une formule qui disait « performance plus médaille égale financement » aussi, parce que c'est souvent la motivation. Aussi. Ce sont des organismes qui ont besoin d'être financés. Donc, si tu gagnes beaucoup, alors on ferme les yeux sur certaines pratiques, comme ça s'est passé. Tantôt, on en parlait dans l'Église. Là, il y a eu ce même genre d'aveuglement volontaire.
Moi, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Ça a été super important, comme bien d'autres mondes. Puis, quand j'entends ces histoires-là, je réalise à quel point j'ai été chanceux d'avoir des adultes, des jeunes adultes souvent, en position d'autorité, qui n'en ont pas abusé. C'est important à cet âge-là d'avoir des modèles. C'est ça qui est pervers là-dedans. C'est que tu fuck des jeunes pour bien, bien longtemps.
Merci, messieurs les commissaires. On vous retrouve demain, 8h52.